La mère des compétences, pour le dire comme ça, c'est la qualité narrative, la capacité de créer du narratif. Et quand je dis créer du narratif, c'est pas simplement avoir l'idée, c'est d'exprimer ce narratif.
Bienvenue sur le podcast Superception avec Christophe Lacnit. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Benoît Cornu, associé fondateur de la maison de talent Juste, laquelle est spécialisée dans les métiers de communication, de marketing et de RSE. Notre conversation traite de l'employabilité des communicants. Benoît commente notamment son parcours, la création et le développement de Juste, les évolutions du métier de communicant et des besoins de recrutement correspondants, les compétences recherchées, l'impact de l'intelligence artificielle générative, les qualités requises pour passer du statut de salarié à celui d'indépendant, le rôle de l'expérience professionnelle dans la pratique de la communication, les cycles de carrière et la relation des entreprises aux seniors dans le cadre du débat sur les retraites. Benoît, bonjour et merci beaucoup d'être l'invité du podcast Superception.
Bonjour Christophe et merci pour cette sympathique invitation.
Écoute, avec grand plaisir. Alors Benoît, toi tu es quasi un melting pot à toi tout seul par l'expérience culturelle diverse dont tu as bénéficié durant ta jeunesse. Donc raconte-nous à la fois cet état de fait et ce que tu en as tiré et ce que tu en tires encore aujourd'hui.
Je suis un pur parisien. Né à Paris, vivant à Paris, même si j'ai une famille qui est originaire de l'ouest de la France, mais comme beaucoup de Parisiens, c'est comme ça que ça... Eux, elles sont arrivées gare Montparnasse, et qui a aussi, elle, des origines polonaises, 18e et 19e siècle, donc voilà. Et surtout, j'ai vécu une partie de mon enfance jusqu'à mon bac de l'autre côté de la Méditerranée, donc à la fois en Tunisie et en Égypte, et en ayant beaucoup voyagé dans ces zones du monde. Et donc, ça m'a ouvert à beaucoup de choses et à une forme de, comme tu dis, de melting pot et de diversité culturelle qui m'a servi en fait tout au long de ma vie, parce que j'ai appris qu'il y avait des gens différents qui faisaient des choses différentes, et puis surtout qu'il y a des pays absolument magnifiques et des gens absolument extraordinaires dans le monde entier. Et donc, j'ai beaucoup voyagé. Après, dans toute ma vie.
Donc, je suppose que cette diversité aussi t'a servi en matière d'adaptabilité dans beaucoup de contextes différents, ensuite dans ta carrière professionnelle et peut-être aussi dans ta vie perso, d'ailleurs.
Totalement. Il y a un proverbe oriental, je vais le dire très mal, mais qui explique que face à un problème, soit il y a une solution, soit il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de solution, ce n'est pas un problème, c'est la vie. S'il y a une solution, on finira toujours bien par la trouver. Donc, finalement, voilà. On avance comme ça.
Ah bah écoute, on va reparler probablement de ce proverbe quand on parlera du cœur de notre sujet tout à l'heure. Alors, ensuite, donc tu as poursuivi ton parcours pour atterrir à Dijon pour faire un master dans une business school. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce choix de parcours estudiantin ?
Alors, à l'époque, j'avais pas vraiment de vocation sortant de mon bac au Caire en Égypte. J'ai enchaîné sur une prépa parce que c'était une espèce de voie naturel qui m'a emmené par le hasard des concours effectivement à ce qu'on appelle aujourd'hui la Burgundy School of Business, mais surtout une fois là, ce qui m'a vraiment intéressé c'est beaucoup plus les métiers marketing que les autres, et en particulier parce que moi mon moteur c'est un peu de comprendre comment les choses fonctionnent et comment la société fonctionne, et c'est pour ça que j'ai commencé après assez vite dans les études marketing, dans les études de marché, parce que c'est là que je me sentais, voilà, où je trouvais que j'avais le plus d'affinité, c'est là que je trouvais de l'intérêt.
Exactement, donc tu as fait deux ou trois postes de chargé d'études ou responsable d'études dans différentes organisations, et puis après tu es rentré au sein du groupe Casino.
Exactement, donc je suis rentré, j'ai commencé à Proscope, j'ai accompagné à la fin des années 90, les débuts de l'Internet, l'émergence du commerce électronique, voilà, jusqu'en 2000, au moment où je suis rentré dans le groupe Cora, puis après chez Casino, et pour passer 10 ans dans la grande distribution, qui a été une période assez extraordinaire de ma vie professionnelle, parce que finalement, la grande distribution alimentaire, chez Cora, puis chez Casino longtemps, c'est un véritable baromètre de ce qu'est la société, la façon dont son pouls bat, parce qu'on voit très bien, en se mettant simplement à la caisse d'un magasin, ce qui est acheté, ce qui n'est pas acheté, et à quel rythme sont faits les courses, si les paniers sont pleins, s'ils sont vides, s'ils sont plus gros d'un mois sur l'autre. On sait quel jour du mois on est par rapport à la taille des paniers. Donc voilà, c'est un véritable baromètre de la société. Et ça, j'ai passé des années absolument passionnantes jusqu'à diriger la communication du groupe Casino à un moment de son histoire où il était en forte expansion. Avec beaucoup de développement international. J'ai un souvenir ému de l'acquisition du Brésil et de l'année du Brésil en France, où avec Casino, on a organisé Place de la Bastille, un concert de 100 000 personnes avec le président Lula sur scène, Gilberto Gil et toute la scène brésilienne qui était venue à Paris. C'était assez étonnant, mais voilà, ces métiers de communication mènent parfois à faire des choses qu'on imagine. De faire ou en tout cas être amené à piloter.
Et donc après, tu as eu deux autres rôles de DIRCOM, un long chez PMU, un plus court chez Elior.
Tout à fait. L'histoire du PMU est là aussi une histoire qui m'a beaucoup marqué. Je suis arrivé au PMU un peu avant l'ouverture du marché des jeux en ligne à la concurrence, en me disant une ouverture d'un monopole à la concurrence, ce n'est pas tous les jours. Il n'y en a pas tant que ça. On avait vécu peu de temps avant celui des renseignements téléphoniques, pour ceux qui se souviennent des campagnes de publicité de l'époque. Voilà. Et donc d'accompagner la marque dans cette transformation était un challenge assez passionnant. Je pense qu'on l'avait réussi à l'époque avec toutes les équipes du PMU. Puis après, il y avait une deuxième frontière qui était, mais finalement, comment est-ce qu'on grandit et comment est-ce qu'on développe le PMU à l'international? Et là aussi, j'ai beaucoup accompagné le développement du PMU un peu sur tous les continents.
Et ouais, donc, je me rappelle qu'on a déjà parlé, toi et moi, plusieurs fois du PMU en Chine, notamment.
Effectivement, où on arpentait de Shanghai, Pékin, Wuhan, à la fois les hippodromes émergents et puis surtout les ministères et les administrations chinoises pour tenter effectivement de leur vendre le développement du jeu, puisque le jeu est central en Chine, même s'il est toujours interdit et prohibé, mais un jour ça viendra, j'espère.
Donc après, il y a eu Elior, et puis après, il y a eu le début de l'aventure Juste. Raconte-nous un peu cet enchaînement.
Après le PMU, j'ai passé un peu de temps chez Elior, et puis j'y suis resté à peu près 18 mois. Et en quittant Elior, je me posais la question de savoir ce que je voulais vraiment faire, parce que j'avais dépassé 50 ans. Ce qui est, quand on dans les métiers de la communication, ça peut être un plafond de verre, on en reparlera peut-être un peu plus tard, ouais. mais en tout cas, j'avais l'impression que j'avais atteint le mien. En plus, ça va paraître un peu sexiste, mais chacun son tour. J'étais un homme et c'est pas ce que cherchaient les chasseurs de tête à l'époque. Mais voilà, chacun son tour, chacun son plafond de verre, que ça permet de l'expérimenter aussi. C'est pas une mauvaise expérience. Et je me suis posé la question de ce que je voulais faire. Et je connaissais bien Louise, puisqu'avec elle, nous avions eu l'insigne honneur d'avoir été à 2 ans d'écart désignée personnalité communicante de l'année par Communication Entreprise à l'époque. Voilà, et donc ça avait créé un lien entre nous, on se connaissait déjà depuis quelques temps. Et Louise était indépendante après avoir quitté Kering et avait cette espèce d'énergie où elle parlait beaucoup de ses missions et elle dégageait effectivement une espèce de d'envie et de d'énergie, oui, parce que c'est le mot qui la caractérise. Et je suis allé la voir en disant: mais raconte-moi ta vie d'indépendant. Et elle m'a dit: je me débrouille toute seule parce que sur le marché personne ne nous aide. Et c'est là qu'est née l'idée, qu'a germé l'idée de Juste, qui est que finalement dans nos positions, dans nos postes précédents, quand on avait besoin de gens un peu qualifiés, un peu seniors pour des problématiques spécifiques de façon temporaire, on avait beaucoup de mal à trouver ces profils-là en s'appuyant sur les intermédiaires, les entreprises de management de transition traditionnelles de l'époque. On s'appuyait un peu sur les agences, mais c'est compliqué pour une agence de détacher quelqu'un parce qu'elle se déshabille elle-même, et puis le réseau. Donc effectivement, le premier pourvoyeur entre guillemets de ce type de compétences et de talents, c'était: tu connais pas quelqu'un qui était la façon de faire. Et on savait, nous, à la fois avec cette frustration et en connaissant le tissu des indépendants, et Louise avait appris à le connaître, on savait qu'il y avait un besoin, on savait qu'il y avait un vivier de compétences, et l'idée a été à un moment donné de dire: mais allons rabouter ce besoin et ce vivier. On a essayé, pour être totalement transparent, en allant voir les grands opérateurs, en leur disant, voilà, comme dit Louise, this is your lucky day, il y a un potentiel de marché, il y a des verticales que vous ne traitez pas, on propose de le traiter avec vous, et avec un pouvoir de conviction tel qu'on l'a fait tout seul. Puisque, on n'a pas emporté leur adhésion, et donc on a créé juste...
Zerlos, comme on dit en anglais.
Exactement, mais c'est très bien, et finalement ça a été une chance que de se voir fermer ces portes-là, parce que ça nous a amené finalement à le faire, et en étant assez convaincu d'y aller, parce qu'on est parti tout seul avec sans doute la foi du charbonnier, mais aussi la conviction qu'on pouvait y arriver, sachant que ni elle ni moi n'avions jamais été entrepreneurs.
Alors justement, c'est la question suivante, Benoît. Est-ce que c'est un type de parcours que tu envisageais, une reconfiguration de ton évolution à laquelle tu pensais, ou est-ce que ça s'est fait vraiment de manière progressive à travers ces discussions avec Louise ?
C'est un peu les deux. C'est-à-dire que j'avais forcément cette chose qui était là, j'ai des amis entrepreneurs et je les regardais avec une forme d'admiration d'abord pour un certain nombre d'entre eux, et puis même pas de jalousie mais d'envie, en disant ça peut m'intéresser, et c'est un peu ça que j'aimerais faire un jour. Mais en même temps, je n'avais pas le projet. Et quand je m'étais posé la question à un moment donné de ma vie, c'était oui, mais ce qui compte, c'est d'abord un projet. Et vu ce que ça demande d'engagement, ce que ça demande d'investissement, ce que ça demande de temps et d'énergie, il faut être convaincu absolument de ce qu'on veut faire. Il faut que ça vienne de loin, je ne sais pas, mais il faut que ce soit assez profond comme conviction. Et donc, on ne peut pas entreprendre en prenant l'air du temps et puis en disant j'essaye. C'est un peu plus compliqué que ça. Et comme ça demande énormément d'engagement et d'investissement, et humain, hein, pas forcément financier, il faut être vraiment assis sur quelque chose de solide. Cette idée-là a émergé, on en a discuté, rediscuté, pris un café, on a déjeuné, on a passé une après-midi, puis deux, puis trois, puis une journée, puis finalement c'est devenu un peu le centre de nos vies, de réfléchir à ce projet, jusqu'à ce qu'on se dise en fin 2019, on est parti en vacances pour Noël, on se reparle à la rentrée, en sachant tous les deux très bien que janvier, la première chose qu'on allait se dire, on y va.
Alors, décris un peu, parce que vous avez un modèle original, à la fois qui est dual sur la durée des missions, ce que vous ne faites pas que du management de transition désormais, et puis aussi sur sa spécialisation haute couture sur deux, trois fonctions. Donc, fais-nous le pitch, décris le modèle pour ceux de nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas encore.
Alors, juste aujourd'hui, fait trois métiers. Qui sont tous les trois centrés sur les compétences marketing, communication, sur les fonctions marketing, communication, essentiellement RSE dans une sans doute moindre mesure. Ces trois métiers sont ce qu'on appelle parfois management de transition, qu'on appelle peu management de transition en ce qui nous concerne, on appelle ça des missions, donc qui sont des missions
avec un début et une fin.
Avec un début et une fin, donc à durée déterminée. On fait du recrutement et de la chasse de tête pour des recrutements en CDI. Et puis, on fait un troisième métier qui est du conseil en organisation. Et tout en restant donc sur ces fonctions communication et marketing, parce que on avait un peu la conviction, mais surtout on a appris depuis la création de Juste, que ce qui fait la valeur et ce qui fait la qualité de notre offre et sa spécificité, c'est qu'on parle métier avec nos clients. Je suis incapable de comprendre ce qu'est une définition de fonction d'un DRH, d'un DAF. C'est pas mes compétences, c'est pas mon métier. Je ne sais pas si elle est adaptée à l'entreprise, je ne sais pas si elle est complète, je ne sais pas le dire. Dans une logique de métier de com ou de marketing, je sais en parler, je sais questionner, je sais échanger. Nous savons avec Louise échanger avec un client qui est la plupart du temps un professionnel aussi, qui est un opérationnel, qui est un dirigeant, ou qui est un cadre sup, ou qui peut être un DRH, mais avec qui on rentre un peu dans le détail. Voilà. Donc, on reste dans un domaine de compétences qui est le nôtre.
Oui, ce qui vous permet de faire de la haute couture.
Ce qui nous permet d'avoir de la précision. Et effectivement, c'est de la haute couture. Alors, pas forcément au prix de la haute couture systématiquement. Non. C'est surtout de la précision, en fait. C'est ça, c'est du sur-mesure absolu. Et c'est la précision à la fois dans la compréhension du besoin, mais aussi dans la qualification du profil et des candidats qu'on peut présenter. Et ça, c'est vrai dans les missions. Comprendre les enjeux d'une mission. Quand on est appelé, par exemple, sur une mission que je vais qualifier de management relais, c'est-à-dire quand on doit remplacer un poste ou quelqu'un, À ce moment-là, ce qu'on doit comprendre, c'est non seulement le contour des contours du poste, et ce qu'il fait, mais aussi quels sont les enjeux à court terme et à moyen terme. C'est pas forcément les enjeux à long terme si quelqu'un doit rester 6 mois pour remplacement de congé maternité. Donc on a besoin de comprendre les enjeux à court terme et ce qu'il va falloir piloter et gérer à l'instant. Et donc ça permet de mieux calibrer et de mieux définir le profil et de mieux choisir la personne qu'on va pouvoir présenter. En général, on présente 2 profils à nos clients. Parfois, on prend le risque d'en présenter un seul. Mais les deux permettent parfois d'arriver très vite à la solution et on a un taux de transformation qui est extrêmement élevé parce qu'on a très très peu d'échecs. Donc on fait ces 3 missions, on fait la même chose donc sur le recrutement où on creuse beaucoup dans le profil. On a une approche du recrutement par compétence, par expertise métier, plus que par ressources humaines, même si à un moment donné ça vient, mais c'est exactement la même chose. On essaie de bien comprendre les attendus, quitte à challenger la définition de fonction avec nos clients, pour être là aussi le plus précis dans la sélection des candidats ou de à qui on va les proposer poste, parce que la plupart du temps ils sont en poste, même si parfois on peut proposer à des indépendants qui peuvent être aussi en demande de CDI.
Et alors, du coup, vous avez une particularité, alors, qu'ont toutes les entreprises qui fonctionnent sur votre modèle, c'est-à-dire que vous devez à la fois séduire les talents et vos clients, parce que les deux font partie de votre modèle de business. Alors, évidemment, toutes les entreprises doivent recruter des talents, mais vous, les talents, c'est un peu ce que vous vendez, les talents que vous connaissez, les talents sur lesquels vous vous appuyez pour satisfaire vos clients. Voilà, donc quand vous avez lancé Juste, il a fallu à la fois que vous rameutiez, si j'ose dire, un cheptel de talents, tout en parallèlement plutôt séduisant aussi vos clients. Donc comment vous avez approché ce double vecteur de confiance que vous deviez créer d'un côté avec vos talents et de l'autre avec vos prospects?
Ben effectivement, la particularité de ce métier, c'est que notre actif principal, c'est notre vivier de talents, mais qui ne nous appartient pas. Ce sont des individus libres. Et donc, ils ne nous appartiennent pas. Donc, c'est la complexité. Donc, on doit les fidéliser. Et surtout, quand on a une demande client, il faut qu'on aille vite. Sur une mission, il faut qu'on puisse répondre dans les 48 heures. Donc, il faut qu'on identifie très rapidement des gens disponibles, prêts à remplir la mission dans les conditions dans lesquelles on la propose. Donc, effectivement, le premier travail que l'on a eu quand on a créé Juste, en plein confinement, parce que sinon, effectivement, ça aurait été moins amusant, ça a été de constituer la première base de vivier. Alors oui, on avait un réseau des relations, mais assez vite, il a fallu le faire. Et les talents, on les fidélise par la qualité des missions qu'on leur propose. Donc on les fidélise par la qualité des clients qu'on arrive à convaincre.
C'est un peu l'œuf et la poule.
Oui, et il faut les deux, parce que si on n'a pas les deux en même temps, on n'y arrive pas. Et donc, faut faire converger chose, et pour être la première mission qu'on avait, c'était dans le secteur de l'assurance. Il fallait quelqu'un qui connaisse très bien l'assurance. Et en regardant le vivier à l'époque, qui était encore petit, on n'avait pas vraiment ça. Et en 24 heures, on avait trouvé, identifié, qualifié quelqu'un. Parce que voilà, on a appris aussi à faire ça très vite, d'aller chercher les bonnes ressources en s'appuyant à la fois sur le réseau. Puis, voilà. Donc ça a été le point de départ. Ce qui fait effectivement ce que nos prospects trouvent intéressant sans doute et qui est un peu caractère original qui est le nôtre, c'est qu'on a une logique de one-stop-shop. C'est-à-dire que sur un marché qui est organisé par nature de contrat, quand on a besoin de recruter, on va voir un chasseur de tête, quand on veut faire, quand on a une mission, soit on fait appel à une plateforme de freelance, soit on fait appel à un cabinet de management de transition, il y a très peu d'opérateurs qui font les deux. Et il y a très peu d'opérateurs qui sont spécialisés compétences. Il y en a quelques-uns dans le juridique, dans les RH, mais dans notre métier, il n'y en a pas. Et donc, nous, on est capable d'apporter à nos clients une réponse de compétences métiers, comme et marketing, on en reste là, mais en revanche, que ce soit temporaire ou permanent. Et donc, en fait, la seule limite qui est la nôtre en termes de secteur d'activité de clients, c'est la limite du vivier.
Exactement.
Voilà. Et que donc, on travaille aussi bien avec l'industrie minière, avec Imerys, qu'avec la tech, avec De Vialet, qu'avec la banque et BNP Paribas, qu'avec Saint-Gobain, Voilà, donc on est vraiment extrêmement, extrêmement large en termes de compétences sectorielles, et ce qui nous a permis d'aller assez vite, effectivement, dès qu'on a pu amorcer la pompe, d'aller assez vite finalement, parce qu'on avait toujours la bonne réponse, ou en tout cas quelqu'un de compétent, à partir du moment où la compétence sectorielle ou l'expérience sectorielle était importante, on avait toujours quelqu'un à proposer à nos clients. Et comme on est arrivé avec cette proposition un peu originale, en disant, mais nous, on fait à la fois temporaire et permanent, et on a de toute façon le talent qu'il vous faut, le seul 06 qu'il faut connaître à Paris, enfin les deux seuls, c'est celui de Louis et de moi, c'est un peu comme ça qu'on l'expliquait, pour trouver les meilleurs. Voilà. Et de dire ça, et effectivement de proposer des missions de qualité, fait que naturellement, par le bouche à oreille.
Ouais, c'est un cercle vertueux.
C'est un cercle vertueux qui fait que les bons nous rejoignent, et à partir du moment où les bons nous rejoignent, on répond favorablement à nos clients, et il y a effectivement... Après, on s'est un peu appuyé sur des outils de communication, notamment autour de LinkedIn, qui nous ont aidés en plus à raconter tout ça.
Alors, ça fait à peu près 4 ans du coup, Benoît, que cette aventure a commencé. Je te propose quelques questions pour prendre un peu de recul. Premier point, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans la création et le développement de Juste ?
Alors, il y a un cas particulier dans la création de Juste, en tant que jeune entrepreneur totalement visionnaire, nous avions programmé l'annonce de Juste le 20 mars 2020. Je croyais que ça allait bien avec le printemps. Mais, pour mémoire, le 20 mars 2020, nous étions tous enfermés chez nous depuis 24 ou 48 heures. Ouais. Et pour créer une entreprise, surtout quand c'est la première, c'est pas évident. Non. On a eu un petit vertige, mais finalement, on est arrivé à la conclusion avec quelques mois de recul. Quelques années de recul, que le confinement avait été un formidable incubateur. Alors, il y a très longtemps, des gens qui ont créé des entreprises à succès, devenus des géants mondiaux, faisaient ça dans des garages, de l'autre côté de l'Atlantique. Nous, on a fait ça dans nos salles à manger, dans nos salons respectifs. Mais en tant que jeune entreprise, on ne dépensait pas d'argent, ni en locaux, ni en invitations, ni en communication spécifique. On avait nos téléphones, nos ordinateurs, un Zoom et Teams, et c'est tout pour exister. À un moment où c'était pas très difficile de convaincre nos interlocuteurs de dégager 30 minutes de visioconférence. Voilà, on n'était pas encore complètement saturé, ouais. Et ça fonctionnait, et ça a aussi suscité un petit élan de curiosité, en tout cas dans notre premier cercle, parce qu'on a fait ça. Donc au début, ça a été à la fois un petit vertige et à la fois un facilitateur. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? C'est on était convaincus de la bonne idée, mais ni Louise ni moi n'avons été vraiment à la tête d'entreprise en tant que financier, en tant qu'administratif, en tant que juriste, voilà. Et ça, c'est du temps passé. Dans un métier où le risque trésorerie et le risque d'exploitation est important, puisqu'on paye nos managers le plus rapidement possible, parce qu'ils en vivent, mais on est parfois payé
au calendrier grec.
Beaucoup plus tard par certains clients. Et donc, il faut gérer ce risque de BFR. Et donc, c'est souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a dit, hein, c'est souvent la cause de disparition en termes de sociétés de management de transition. Donc, c'était un moment aussi où c'était un peu... voilà, on a réussi à piloter ça, on a été cash positif dès le premier jour, et ça a toujours été rentable. C'est pas très bien payé non plus, voilà. Ça faisait partie du jeu. Mais le plus difficile, ça a été à un moment d'appréhender tout ça et de faire tourner ça tout en faisant du développement en parallèle, sans avoir, on s'appuyait sur des gens qui savaient faire, mais sans avoir beaucoup de ressources non plus pour employer, pour salarier des gens. Mais on a appris à ce qu'on appelle avec Louise la frugalité joyeuse, c'est-à-dire qu'on fait avec peu, mais on fait avec bonne humeur et envie, puisque c'était notre projet. Donc ce qui a été pas évident, c'est d'agréger tout ça, d'avancer, mais comme on était porté par le projet et qu'assez vite, à partir du moment où la mayonnaise a pris, notre premier client, c'était au mois de juin, le deuxième au mois de septembre, donc après une annonce début avril, c'est à la fois rapide et pas rapide. Et à partir du moment où ça a démarré, ça ne s'est jamais arrêté. Donc ça, on a été porté par ça. Mais le plus difficile, ça a été ça. Et puis, là, on a une deuxième étape pas simple qui a été de dire, mais comment est-ce qu'on gère la croissance? Et voilà, c'est quoi l'étape d'après? Ouais. À partir du moment où on avait été les deux moteurs de Juste, mais on était en passe de devenir les facteurs limitants. parce que voilà, ça s'appuie sur nous deux et donc avec une bande passante qui à un moment donné a sa limite. Puis nos compétences, elles arrivent aussi sur certains sujets. C'est bien pour quand on est tout petit, mais dès qu'on prend de l'ampleur, il faut des gens un peu plus solides pour gérer à la fois les aspects.
D'où l'accord dont on va parler dans quelques instants. Est-ce qu'il y a au contraire, Benoît, quelque chose qui t'a paru plus facile que ce à quoi tu t'attendais dans l'aventure?
La partie client, c'est quand on est communicant ou quand on est directeur marketing, parce que j'étais dans pas loin de 30 ans, on est sollicité en permanence. Là, avec Louise, nous devenions solliciteurs.
J'ai connu la même transformation, ouais.
Et c'est une posture qui n'est pas évidente. Alors quand on est, entre guillemets, habité, le mot est fort, mais quand on est porté par son projet, qu'on est convaincu, c'est facile de le défendre. Mais autant encore peut-on le défendre quand on a réussi à pousser la porte. Et le plus difficile, je crois que c'est de pousser la porte. Et je pense qu'on se fait plus peur, en vérité. Mais c'est ça qui est le plus difficile, vraiment, c'est de passer ce cap-là. Et on se rend compte assez vite que c'est pas si difficile à passer. Ça s'apprend, ça ne s'invente pas. Il y a des gens qui le font très très bien, dont il faut profiter à la fois des compétences et de l'expérience, et qui arrivent à expliquer comment on fait. Mais à un moment donné, c'était pas si évident. Parce qu'on a commencé tout petit, donc les appels entrants arrivent, donc on arrive à faire. À partir du moment où on prend une certaine dimension, Il faut continuer à assurer le développement parce que derrière, on a pris les engagements, on fait travailler les gens et donc il faut que la machine elle porte avec le bateau grandissant, il faut qu'il porte l'équipage qui grandit aussi, etc. Donc ça demande vraiment plus d'efforts.
Et du coup, Benoît, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même depuis 4 ans à travers cette aventure?
J'ai toujours été assez passionné par ce que je faisais, donc là-dessus, je suis toujours et je suis très heureux de le faire. Non, je pense qu'il y a, je parlais de frugalité joyeuse, mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire que quand on a passé beaucoup de temps dans les comités exécutifs, qu'on a été amené à prendre des avions au Bourget, comme dit Louise dans le luxe, did you fly commercial? Que le taxi G7 attend en bas, sans même qu'on ait de l'adresse parce que quelqu'un s'en occupait pour nous, etc., etc. Tous ces oripeaux liés à ces fonctions qu'on trouve très importants et que le statut est essentiel quand on est au 38e étage de la tour, à la Défense, on se rend compte que ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est confortable, c'est très confortable, mais finalement, c'est pas ça qui compte. Et quand on passe, comme dit mon associé préféré, du jet à EasyJet, c'est pas si compliqué. Et on peut c'est ce qu'on explique beaucoup à beaucoup de nos managers, entre guillemets, primo-accédants, qui quittent des postes de comité de direction, de comité exécutif un peu confortables, et qui peuvent avoir ce petit vertige. Voilà. Aujourd'hui, on a, nous, l'expérience pour expliquer que c'est pas si difficile et on peut avoir peur de ça. Et en fait, on se rend compte que qu'est-ce que je suis beaucoup plus heureux sur mon vélo avec mon passe Navigo que dans les bouchons avec un G7. J'ai acquis des degrés de liberté supplémentaires. Et ça n'a pas de prix.
C'est clair, je partage. Alors justement, on va parler de ton associé préféré, comme tu l'as qualifié. Donc vous formez un duo maintenant très respecté avec Louise.
Merci.
Bah non, mais je ne vais pas te dire le contraire, on se connaît depuis assez longtemps tous les trois. Comment vous avez forgé et puis ensuite mûri cette relation de travail qui, je suppose, n'a pas dû être facile tous les jours parce qu'on ne crée pas une entreprise à deux comme ça sans avoir des moments un peu moins roses que d'autres. Donc, comment ça s'est passé entre vous pour arriver à ce que vous avez construit aujourd'hui?
Sur le papier, ce n'était pas gagné parce que... moi, on l'a dit tout à l'heure, je suis né à Paris, j'ai un peu voyagé, mais j'ai fait plutôt ma carrière dans les produits de grande consommation, dans les marques, voilà, et plutôt dans les entreprises internationales, mais avec des fortes racines françaises. Louise est irlandaise, née en Afrique du Sud, élevée en Suisse, ayant travaillé à Londres, ayant fait son parcours un peu dans l'industrie, beaucoup dans la finance et dans le luxe. Donc, sur le papier, c'était pas si évident que ça. On s'est rendu compte qu'on faisait exactement le même métier, qu'on a des caractères extrêmement différents et donc totalement complémentaires.
Ça va être ma prochaine question, on va en parler, ouais.
Mais surtout, et là, je rends grâce à Louise de l'avoir fait, on s'est fait accompagner dès le départ. une forme de thérapie de couple par anticipation, où dès le début, en n'ayant jamais travaillé ensemble, on a demandé à quelqu'un de jouer un peu le coach, entre guillemets, le mot est un peu fort, mais voilà, qui nous a permis en fait de comprendre ce que chacun d'entre nous avait comme force et comme faiblesse, parce qu'on les a exprimées, et surtout comme attente et comme allergie, entre guillemets. De quoi ai-je besoin, moi, quand je travaille? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre? Et qu'est-ce qui me fait dérailler? Je sais ce qui fait dérailler Louise, et je sais ce qui peut la motiver, ou en tout cas, on a fait ce travail-là. Et ça, pour démarrer, c'était absolument formidable, parce qu'on est arrivé sans se prendre ça sur un conflit ou sur une problématique. Ce qui permet d'avoir un dialogue permanent, parce que voilà, je sais à quoi je dois faire attention, elle sait à quoi elle doit faire attention, et je sais ce qu'il faut que j'essaie de motiver. Inversement, elle sait comment me... Et donc ça a permis effectivement dès le départ de partir. Et on a refait ça un peu plus tard, au bout d'un an et demi, deux ans. On est arrivé à ces questionnements il y a un peu plus d'un an sur la croissance. On s'est réappuyé sur quelqu'un dans notre réseau qui nous a aidé à formaliser aussi le projet pour être sûr d'avoir un projet qui soit bien aligné ou d'identifier les désalignements qu'on pouvait avoir. Et quand on les identifie et qu'on les exprime, qu'on les conscientise, pardon pour le mot, qu'on les exprime ensemble, c'est beaucoup plus facile. Est-ce qu'on est capable de se mettre d'accord ou pas d'accord? Et en fait, notre alignement vient de ça.
Alors là...
en amont et en permanence essayer de discuter, même si on ne se voit pas, on se parle X fois par jour, quoi qu'il arrive.
Alors la complémentarité dont tu faisais état, Benoît, parlons-en 30 secondes, qu'est-ce que tu dirais que tu lui apportes et qu'est-ce qu'en retour elle t'apporte? Comment vous vous complétez?
Je l'ai dit tout à l'heure, le mot qui définit Louis, c'est l'énergie. Et parfois une forme d'impatience, mais qui justement oblige à faire les choses rapidement. Moi, je suis peut-être plus oriental par ce que j'ai connu un peu plus jeune, où je donne un peu plus de temps au temps. Et donc, la combinaison des deux peut nous permettre d'être dans le bon tempo. Parfois, on peut aller trop vite, ou parfois, on va pas assez vite. Alors, ça reste toujours vrai, parfois, mais voilà, ça nous donne cette espèce de vision peut-être un peu plus dans le rythme qu'on doit tenir. Elle tient mieux la montre, elle tient mieux le tempo, l'organisation. Moi, je gère un peu plus, je suis un peu plus dans la partie gestion, ou dans la partie un peu structurante. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir surtout énormément confiance en l'autre dans la façon dont il travaille et dans ce qu'il fait. Ça nous permet d'être assez finalement libre dans ce qu'on fait parce qu'on se parle beaucoup, on se pose la question et on se dit non mais vas-y, tu t'en occupes.
Alors Benoît, mais... tu évoquais tout à l'heure votre configuration pour votre croissance. Il se trouve que donc je faisais allusion à un accord récent dont on va maintenant parler. Vous êtes donc adossé à Alixio. C'est le deuxième groupe fondé par Raymond Soubi après son départ de l'Élysée, qui est maintenant un groupe très, très important en termes de taille et d'influence. Alors, qu'est-ce qui a motivé, deux questions peut-être, Benoît, par rapport à ça. Numéro un, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Et numéro deux, qu'est-ce que vous attendez de ce rapprochement, justement, pour la prochaine phase de votre développement?
Quand on a créé Juste, on n'avait pas d'idée préconçue de ce que deviendrait Juste à 5 ans. On avait fait un business plan. Et on a créé Juste sans avoir recours à aucun apport financier autre que à peine quelques dizaines de milliers d'euros de compte épargne qu'on a tout de suite remboursé d'ailleurs parce que dès qu'on a pu, pour le faire franchement et d'être complètement libre par rapport à ça. Mais arrivé à une certaine taille, on s'est posé la question, est-ce qu'on reste dans cette configuration? On qualifiait ça de notaire de province, malgré tout le respect que j'ai pour la province, mais avec une capacité de croissance qui n'est que tous les deux. Ou est-ce que finalement, on n'était pas à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait créé un actif. On était en train de créer un actif. Cet actif avait du potentiel et qu'on se posait la question de comment le valoriser et l'accélérer. Avec, entre guillemets, notre âge canonique pour les entrepreneurs.
Bien sûr.
J'ai peur de start-up. On n'a pas effectivement 20 ans devant nous de vie professionnelle, peut-être, mais c'est peut-être pas forcément la ligne de plus forte pente. On s'est convaincu assez rapidement qu'on pouvait accélérer cette croissance, qu'il y avait encore énormément de potentiel sur le marché, mais que pour aller accélérer cette croissance, il fallait la financer. Il y avait trois possibilités. Du financement bancaire, aller emprunter. Les taux n'étaient pas encore complètement là où ils sont aujourd'hui, mais ils commençaient déjà à être sympathiques. Aller faire ce qu'on appelle du cash-in avec des investisseurs au capital développement, ou s'adosser à un industriel, entre guillemets. Et donc, on a fait, là aussi, on a appris sur nous, parce qu'on a fait quelque chose qu'on n'avait pas imaginé faire. On s'est appuyé sur une banque d'affaires. On a fait des business plans un petit peu plus structurés que ceux qu'on avait fait avant, même si on avait bien suivi le premier qu'on avait fait tout seul sur Excel. On a fait des infomémos pour les investisseurs. On a fait des management meetings avec les investisseurs. Tout ça, pour nous, des choses qui n'existaient pas. Et en répondant sur notre activité à des questions qu'on n'avait même pas imaginé se poser nous-mêmes. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça décale le propos, ça décale le regard qu'on a sur sa propre entreprise, et c'est extrêmement enrichissant, et ça permet aussi de progresser. Et on a eu deux propositions, une d'un investisseur, Capital Développement, qui a été extrêmement, en plus, bienveillant avec nous, et qui nous a beaucoup poussé dans la réflexion, et puis un autre de la part d'Addixio, qui venait d'être un an avant d'être acheté par Ardian, le fonds d'investissement, et donc qui est dans une logique de construction d'un pôle talent un peu conséquent, avec des ambitions européennes un peu fortes. Et il y a aussi à ce moment-là des rencontres humaines qui font qu'on a choisi avec les dirigeants d'Addixio, et notamment Guillaume Allais, Philippe Vivien et Raymond Soubi, on a choisi cette voie-là. Parce que voilà, on était convaincu que c'était le bon choix. Donc aujourd'hui, effectivement, on s'est adossé au groupe Addixio, à qui on a cédé une partie du capital qui est majoritaire, avec l'objectif de créer un pôle talent. Au même moment, Addixio a fait l'acquisition d'XPM, qui était un des leaders du management de transition et qui est un des leaders du management de transition en France. Et on est en train de construire ce pôle. Et donc on rentre dans une aventure entrepreneuriale et industrielle un peu plus ambitieuse. On apporte, nous, notre petite pierre à l'édifice. Mais c'est ça le choix qu'on a fait. Et encore une fois, en ayant, je ne sais pas si ce quart d'heure d'avance, c'est pertinent pour le dire, mais en étant un des rares acteurs du marché qui fait à la fois du temporaire et du permanent, et qui le fait par des approches d'expertise et de compétences. Absolument. Et donc avec une logique de multispécialiste à terme, et qui est capable de répondre à toutes ces attentes, avec un marché qui se développe énormément sur la partie temporaire, management, transition ou mission. Parce que ça correspond à la fois aux attentes de l'entreprise et à la fois aux aspirations aujourd'hui des talents, que ce soit les gens qui sont en poste ou les gens qui sont déjà indépendants.
Alors écoute, ce chapitre sur ton parcours et sur Juste étant terminé, je te propose, Benoît, qu'on passe au cœur de notre conversation, dont le thème va être l'employabilité des communicants. On va pouvoir traiter de plusieurs thèmes dans ce cadre. Peut-être pour commencer par les fondamentaux, comme j'en ai l'habitude dans ces épisodes de podcast, est-ce que tu peux nous donner une idée des tendances que tu observes en matière d'évolution du métier de communicant et du coup de recrutement de la part de tes clients dans ce domaine ?
Je pense que la communication et le marketing par extension, parce qu'en plus ces deux métiers, on y reviendra peut-être, ont tendance aujourd'hui à se rapprocher plus qu'ils ne l'étaient précédemment, est en train de passer un cap et vivre une forme de révolution, le mot est un peu fort peut-être, mais de transformation importante. Aujourd'hui, les entreprises, elles doivent rendre des comptes sur tout, à la fois sur ce qu'elles font, les produits qu'elles vendent, mais aussi la façon dont elles emploient leurs collaborateurs, dont elles les recrutent, mais aussi la façon dont elles ont un impact sur l'environnement, ce qui n'est pas un scandale, mais aussi peut-être aujourd'hui, on le voit dans certains débats aux États-Unis, la façon dont elles adressent les sujets de société, la façon dont elles adressent les sujets quasiment géopolitiques. Et voilà. Donc il y a une exigence de l'opinion, au sens très large, vis-à-vis d'entreprises qui est beaucoup plus forte en termes d'impact. Et donc, ça demande aux entreprises d'être beaucoup plus vigilantes sur la façon dont elles expriment ce qu'elles font et la façon dont elles le font. Et ça, c'est un peu le métier des communicants. Le deuxième élément, c'est que tout ça se fait sur un environnement où les audiences, et c'est des discussions qu'on a parfois ensemble d'ailleurs, elles sont complètement fongibles. Et que la même personne, selon l'heure de la journée et la position qu'elle a dans la journée en tant qu'individu, en tant que salarié, collaborateur, consommateur, etc., va consommer une information sur des réseaux différents sur le même entreprise, mais avec des contenus qui sont différents. Et donc, il y a cette exigence d'une cohérence beaucoup plus forte qu'avant, parce qu'on ne peut plus raisonner par silo, on ne peut plus raisonner par canaux. On est obligé d'avoir une cohérence beaucoup plus forte de l'émission de cette information. Et donc, cette émission, elle est basée sur la production de contenus de toute nature, que ce soit des contenus produits, que ce soit aussi des contenus subis, parce qu'il y a aussi des choses qui rentrent. Et donc, au milieu de tout ça, le métier de communicant devient une forme d'homme orchestre qui doit à la fois préserver la réputation, mais organiser l'influence, pour simplifier. Et que donc, ce qu'on voit bien, c'est qu'on a besoin de gens qui sont de plus en plus pointus dans cette capacité à imaginer, dans cette capacité à construire de la production de contenu de façon coordonnée, intelligente évidemment, et les diffuser, mais en même temps en permanence mesurer l'impact. Donc ça demande sans doute plus de complexité qu'avant et plus de complétude entre guillemets dans l'expérience qu'ont les communicants entre guillemets de tête, notamment les DIRCOM. Et c'est vrai aussi pour les métiers du marketing qui aujourd'hui, avec ce que j'appelle l'effet Salesforce et digitalisation extraordinaire du métier, fait que c'est un peu les mêmes enjeux qui se posent. Donc ça c'est un peu les fondamentaux. Donc ça demande plus d'expérience, plus d'expertise, peut-être plus de puissance de management, plus de capacité à répartir, d'hybridation des organisations pour être plus réactif. Peut-être plus de frugalité aussi, parce qu'on observe que si les équipes augmentent de taille, si les compétences et les périmètres des DIRCOM ont tendance à monter, les budgets ne bougent pas. Alors il y a des moyens de faire les économies, et on parlera sans doute d'intelligence artificielle, et ça peut être un moyen de faire des gains de productivité, mais fondamentalement, globalement, je pense que le métier de DIRCOM en tout cas, il est poussé par ça. Et il y a un dernier élément qui joue en sa faveur, entre guillemets, parce que je considère que c'est plutôt bon pour la com et pour les communicants. Il y a un effet Covid et un effet confinement. Il y a un effet retard où, au moment du confinement, ce sont les communicants qui ont été à la manœuvre pour relier l'entreprise au reste du monde. Les dirigeants n'avaient plus les moyens habituels de parler à différentes parties prenantes, et sont les équipes com qui ont fait le boulot de reconstruire le joint, ou de construire les joints et de faire. Et là, elles ont, dans beaucoup d'entreprises, elles ont refait la preuve de leur pertinence, de leur utilité et de leur importance. Et on voit bien dans les études récentes qu'on a pu voir que les communicants eux-mêmes disent on est mieux considéré et on est mieux associé aux enjeux stratégiques et on est mieux supporté par nos directions générales qu'on pouvait l'être avant le Covid.
Et en particulier d'ailleurs sur la com interne qui a aussi beaucoup gagné à cet égard, ou regagné on va dire.
Et le fait de parler beaucoup plus souvent, et je te rejoins là-dessus, et on parle d'ailleurs de plus en plus d'engagement, même si l'engagement touche d'autres parties prenantes, mais la communication interne souvent s'appelle engagement parce qu'il s'agit bien d'engager, il s'agit bien d'avoir un dialogue et pas de faire de la communication intérieure, mais bien d'emmener les gens.
Alors du coup, dans ce cadre que tu viens de déterminer, de définir, Benoît, quelles sont les compétences clés, alors compétences techniques et comportementales, soft et hard, que vos clients recherchent et donc dont vous êtes vous-même à l'affût auprès de votre vivier de talents?
La compétence, j'allais dire, la mère des compétences, pour le dire comme ça, pour moi, c'est la qualité narrative, la capacité de créer du narratif. Et quand j'ai créé du narratif, c'est pas simplement avoir l'idée, c'est d'exprimer ce narratif, c'est-à-dire de savoir ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et donc, c'est d'être capable, effectivement, non seulement de concevoir le narratif, mais aussi de l'exprimer, de l'écrire. L'écrire, que ce soit le verbaliser, que ce soit le mettre en image, que le mettre en texte. Mais la première des compétences, c'est celle-ci. Et ce qui est attendu, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on fait, on crée un narratif, et c'est parfois difficile parce que les qualités d'écriture, à la sortie des écoles, des universités, aujourd'hui, n'est pas forcément ce qu'on enseigne le mieux aux étudiants, y compris ceux qui sortent de communication. Donc, pour moi, c'est la première des compétences. La deuxième, c'est plus du soft que du hard, mais c'est la curiosité. c'est la capacité à absorber, parce qu'en permanence, la réputation, c'est aussi comprendre ce qu'on en dit. Voilà. Et tout ça en étant capable de s'appuyer sur des outils de plus en plus digitaux. Et donc, ça veut dire des gens qui pensent bien, qui savent l'exprimer, qui comprennent le sens des choses, qui voient la société bouger ou qui voient leur public, sur lequel ils peuvent être concentrés, bouger, et qui sont capables de mettre en scène tout ce narratif en s'appuyant sur les outils de façon extrêmement rapide. Et donc, même si la communication n'a pas l'image d'un métier, il n'y a pas d'ingénieur en com, hein, ça n'a pas l'image d'un métier technique, c'est un métier extrêmement technique. C'est un métier où des expertises techniques sont essentielles de toute nature. Il faut savoir écrire, il faut savoir comprendre, il faut savoir utiliser les outils. Il faut aller très vite. Il faut aller très vite.
Alors, pour rebondir sur ton relation aux facteurs numériques, est-ce que vous voyez déjà un impact de l'IA générative sur la manière dont vos clients abordent leur management de leurs talents?
On est encore très 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 fortement dans un questionnement. Oui, il y a des choses qui sont faites de façon très opérationnelle dans la génération de contenu, dans la génération d'images, dans la génération de texte. L'IA générative a déjà un impact. Pour autant, on ne voit pas encore, en tout cas de façon massive, on le voit très ponctuellement, comment est-ce que ça impacte l'organisation et comment ça impacte les profils. C'est vraiment aujourd'hui encore au stade du questionnement. Ça fait, j'allais dire, même pas 18 mois que l'IA générative est vraiment rentrée dans une dimension, j'allais dire, grand public au sens connu de tous. Pour autant, ça va très vite. Donc, tout le monde sait qu'il faut y aller. Tout le monde se demande comment y aller. Quelques-uns commencent à avoir des réponses. Mais pour le moment, on voit bien les gains de productivité que ça peut générer. Et ça commence à se matérialiser. On commence à voir les risques, mais c'est encore, je trouve qu'on est encore... en revanche, nous, on pousse beaucoup nos clients à dire mais posez-vous les questions. Parce que ça va tellement vite, je crois que jamais une technologie n'a été adoptée aussi vite. Quand on prend les rythmes d'adoption des technologies, je crois que ça n'a jamais été aussi rapide. Et quand on voit, même s'il y a beaucoup de discours, et après, il faut du temps pour faire les choses, mécaniquement, mais quand on voit la façon dont, par exemple, Publicis s'est tourné, en tout cas dans son positionnement, et est en train d'essayer de faire bouger ses équipes avec ça, c'est assez phénoménal. C'est assez phénoménal. En tout cas, la décision stratégique, oui, elle est prise très vite, et elle est massive. Après, on sait tous qu'il faut du temps pour faire les choses. Mais c'est assez impressionnant. Donc, on est à ce moment-là. On est à ce moment charnière où on ne sait pas forcément quelles compétences il faut pour apprivoiser et adopter l'IA, parce qu'elle bouge aussi vite. Et donc, oui, la question est là, mais la réponse, elle est encore très, très, très informelle. Et je sais que je parle à un expert. Donc je suis très prudent.
Benoît, pour élargir un tout petit peu le propos et revenir au primo-accédant dont tu parlais tout à l'heure, si aujourd'hui des communicants nous écoutent et qu'ils se disent « Ah bah tiens, je me verrais bien devenir indépendant ou rentrer dans une logique de mission plutôt que d'un CDI », quel conseil tu leur donnerais pour aborder cette éventuelle nouvelle phase de leur parcours le mieux possible ?
Alors, oui, la vie professionnelle est faite de plus en plus de cycles, et se poser cette question-là est sans doute pertinent. Pour autant, ça demande un certain nombre de qualités. Mais je pense que la première des questions à se poser, c'est de quoi j'ai envie ? Voilà. Qu'est-ce qui me plaît dans mon métier ? Qu'est-ce qui me déplaît dans mon métier ? Et nous, on encourage beaucoup nos talents, nos managers, y compris les primo-accédants, mais pas que, à se poser à la fois les questions de leurs compétences, de leur parcours professionnel, des secteurs qu'ils ont traversés, des entreprises dans lesquelles ils ont travaillé, des postes qu'ils ont occupés, des responsabilités qui ont été les leurs. Mais on leur demande aussi de regarder et d'essayer de faire un inventaire des situations qu'ils ont rencontrées. Et même il y a très longtemps. Parce que ça les oblige à sortir du parcours linéaire et du parcours chronologique, que celui d'un CV ou d'un profil sur LinkedIn. Et quelles sont dans ces situations celles où finalement ils se sont sentis vraiment à leur place, celles où ils ont eu du succès, celle où voilà, c'était là, c'était ici et maintenant, je suis là. Et puis celle aussi, par ailleurs, où c'était pas ça. Soit ils se sont plantés, ça arrive, soit ils n'ont pas été reconnus à la hauteur de ce qu'ils avaient fait, soit ils ont été frustrés, soit ça ne leur a pas plu du tout. Et quand je dis situation, c'est l'entreprise, c'est le secteur, c'est la mission, c'est le projet, c'est la campagne, c'est peu importe. Voilà. Et ça, ça permet quand même de faire une cartographie de bah, finalement, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire. Et si je crois à ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je sais, ce que je ne sais pas, il y a des chances qu'au milieu... ça correspond à une aspiration et une capacité à faire et une bulle d'épanouissement potentiel. Voilà, c'est...
Et de performance, d'ailleurs, ce que les deux vont ensemble.
Et donc, de performance, évidemment, derrière. Et ça, c'est très important parce que c'est vraiment le travail de fond et le travail initial. Et nous, on les encourage beaucoup à faire ça. Et en disant, si jamais vous voulez devenir indépendant, vous quittez bah, ces fameuses oripos de
la oui, dont on parlait
vous n'avez
tout
plus
à l'heure.
De statut, vous n'avez plus de marque, vous n'êtes plus défini par l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous n'êtes plus défini par votre poste. Or, la France est un pays de statut, est un pays de statut. La deuxième question posée, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ce qui n'existe pas dans plein d'autres, y compris en Europe, dans plein d'autres pays. C'est comme ça, on se définit un peu comme ça. Et donc, il faut avoir il faut accepter ça, ou l'accepter, ou en tout cas être à l'aise avec. C'est pas besoin de se contrir. Mais je pense que c'est le premier conseil que je donnerais, c'est faire cette cartographie qui permet de se positionner. C'est vraiment la carte et le territoire. Hein. On revient à Houellebecq, mais je ne savais pas que je citerais Houellebecq dans un podcast de Christophe Lacnit et de Superception, mais je le fais.
On peut tout faire.
Et donc, je pense que c'est le premier mouvement à faire. Le deuxième, c'est pas lâcher la proie pour l'ombre. Le faire en étant sûr de ce qu'on fait. Si on a une rupture professionnelle et qu'on quitte un job, c'est le bon moment pour se poser la question. Si on est confortablement, c'est le bon moment pour poser la question. Mais en revanche, pour la décision, il faut bien tout mesurer. Il faut bien tout mesurer. Et ça, parce que ça peut être compliqué. La vie d'indépendant, c'est à la fois nos managers nous disent qu'ils ne reviendraient pas en arrière, pour la grande majorité d'entre eux. Pour autant, il faut quand même y aller et c'est un sport d'engagement. C'est pas fait pour tout le monde. Donc, il faut mesurer sa capacité à faire ça en disant que c'est exigeant, c'est une qualif au JO. Peu de choses près. Parce que nous, on a plein de champions olympiques.
Tant mieux.
Olivier, c'est plein de champions olympiques.
Pour parler d'un sujet, Benoît, dont on parle de temps en temps, toi et moi, quand on n'est pas devant un micro, le rôle de l'expérience dans les métiers de communication, c'est vrai qu'on est sur des métiers moins objectivables, on va dire, que la finance, le juridique, etc. Et que donc l'expérience, évidemment, des situations vécues qui peuvent être comparables à des situations qui se présentent à nous est importante et qu'il y a beaucoup de débats dans la société sur le rôle des seniors dans les entreprises, et d'ailleurs au-delà des entreprises, dans les organisations. Donc, petit faisceau de questions là-dessus. Quel rôle attachez-vous par rapport à, et attachent vos clients d'ailleurs, à l'importance de l'expérience pour l'expertise des communicants? Deuxième, je te pose les trois, parce que tu as probablement les traiter dans une réponse commune. Deuxième question, est-ce que tu trouves aujourd'hui que les seniors ont une place qu'ils méritent ou pas dans les organisations de communication? Et du coup, la troisième qui est un peu plus orientée que la deuxième, voilà, est-ce que les seniors aujourd'hui en communication sont sous-valorisés par rapport à ce qu'ils pourraient apporter?
En fait, je rejoins ce que tu dis. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'ingénieur en communication. La communication, le marketing, d'une certaine façon aussi, sont des métiers non normatifs.
Alors, le marketing, un tout petit peu moins, on va dire, parce qu'il y a la relation au pipe qui est un peu différente.
Mais le métier lui-même n'est pas normatif dans la mesure où ça prend des formes différentes, ça prend des contours différents d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre.
Absolument.
D'une histoire d'entreprise à l'autre.
Et même d'un contexte à l'autre.
Alors que, vraiment, une direction financière ou une direction des ressources humaines, il y a dans la finance, il y a de la comptabilité, fournisseur, client, il y a de la trésorerie, il y a de la fiscalité, il y a de la consolidation éventuellement, etc., etc. Et dans les RH, il y a effectivement l'appel, le recrutement, les relations sociales, la gestion des potentiels, etc., etc. Dans la communication, ça peut prendre des formes différentes. C'est pas toujours au même étage dans l'organisation. D'où le débat sur la présence de la com au comex, etc., etc. J'y reviendrai pas, mais non. Voilà, c'est des métiers qui sont beaucoup moins normatifs. et qui donc sont compliquées à objectiver dans cette mesure-là. Pour autant, ce sont des métiers où effectivement l'expertise vient de l'expérience. C'est à force d'avoir traversé des moments, des situations, des campagnes qu'on apprend les choses. On ne s'improvise pas en gestion de crise. Il faut avoir vécu une crise dans le dur, vraiment de l'intérieur, pour comprendre ce que c'est. Parce qu'on peut lire tous les manuels du monde, si on n'a pas vécu la réalité d'une crise, c'est compliqué de la gérer. Quelle que soit la nature de la crise, c'est compliqué. Moi, dans la distribution, j'ai vécu des crises alimentaires, d'intoxication, etc., etc., ce que j'ai retrouvé chez Elior, extrêmement forte. C'était beaucoup plus facile à la troisième ou à la quatrième. Heureusement, j'en ai pas eu non plus des dizaines, mais c'est beaucoup plus facile parce qu'on a les réflexes. Parce que, et la communication est un métier où l'expertise vient de l'expérience, de toute cette vie et ces strates qu'on a accumulées, de cette sédimentation. Voilà. C'est essentiel parce que ça permet aussi de maîtriser les techniques et de voir leur évolution. Oui, effectivement, il y a très longtemps, quand j'ai commencé, la radio annonçait, la télé montrait, les journaux expliquaient. Et c'était très bien parce que les journaux, ils bouclaient à 18h, 19h. Donc, si on avait une information qui sortait à 20h, c'était pour la radio, la télé, et on n'avait pas de surprise à la une des échos du Figaro le lendemain. Aujourd'hui, on est sur un moment, on est sur l'instantané, l'universalité, c'est tout et tout le temps, et maintenant, et partout, et donc ça peut venir de tout le monde. Mais en ayant appris ça, ça peut prendre du recul aussi. On apprend à gérer le temps quand on est communicant, c'est le premier des paramètres, le temps. C'est pour ça que les seniors, pour ça, ils sont essentiels dans la fonction. Ils sont essentiels dans la fonction. Oui, l'énergie de jeunes geeks digital natives, c'est essentiel parce que ça oblige à bouger, à se poser des questions et à apprendre. Et puis ça apprend comment, on apprend comment l'information est consommée aussi par les populations. Mais pour autant, il faut aussi écouter les vieux sages qui ont vu et qui ont sans doute un avis pertinent. Et je pense que c'est un métier où on peut très bien vieillir et très longtemps. Voilà, je connais des dirigeants de cabinets encore très en pointe qui ont dépassé les 75 ans et ils ont encore beaucoup d'influence à Paris et ils ont une acuité et une capacité de rebond dès qu'il se passe quelque chose qui est assez fascinante.
Alors, est-ce que cette valeur ajoutée des seniors, Benoît, est bien perçue et valorisée par vos clients ou est-ce que... les plans de départ des seniors dans les entreprises dont on entend trop souvent parler ne leur sont pas très favorables.
C'est l'ambiguïté et je la réponse n'est pas la même sachant qu'on parle de soit de mission soit de CDI.
Oui, ils sont valorisés plus pour les missions.
Ils sont beaucoup plus valorisés. Le recrutement traditionnel, c'est assez compliqué.
Oui, c'est clair.
Effectivement, même si les choses sont en train de bouger, c'est assez compliqué. Et c'est vrai qu'on se bat. Le débat sur la retraite et là-dessus a été assez caricatural. Mais aujourd'hui, on explique qu'un senior, c'est à partir de 40 ou 45 ans. On n'est pas à la moitié de sa carrière à 45 ans quand on est quand on a fait des études, un master ou équivalent. On a 20 ans de métier. Il en reste au moins 20 devant, si ce n'est plus. Donc on n'est pas à la moitié de sa carrière, on n'est pas à la moitié du chemin. Et déjà, on nous explique qu'on est passé dans la deuxième catégorie, celle qui va vers la fin. Alors que c'est le moment où on est le meilleur, où c'est le moment où on peut encore beaucoup apprendre, on peut partager, on peut transmettre, on peut manager, on peut piloter, on a le recul sur les choses. C'est comme pour l'entrepreneuriat, meilleur entrepreneur beaucoup plus tard, à mon avis. Et donc, les entreprises vont passer. En revanche, et ça, c'est la joie de notre métier, c'est que sur les missions, la question de l'âge ne nous est jamais posée ou de façon très exceptionnelle. Ni quel âge, ni homme ou femme. C'est des sujets qui sont complètement mis de côté parce que ce qui compte, c'est l'expertise et la compétence. Et donc, on essaie de prendre notre bâton de pèlerin pour expliquer que ça peut être pareil pour le permanent. Oui, un senior, c'est plus cher. Pas forcément. Un senior, il peut avoir aussi moins de besoins et il a pu... s'il a le toit sur sa tête, qu'il a payé les études de ses enfants, voilà, il peut avoir aussi moins besoin et donc il peut aussi faire des sacrifices, entre guillemets, ou en tout cas être moins gourmand financièrement parce qu'il peut être très heureux en vivant avec un peu moins. Mais Un indépendant, aujourd'hui, c'est pas un critère, et c'est très heureux, et on l'a découvert, hein, on ne le savait pas au départ, mais c'est très heureux, et parce que ce qu'on vend, c'est l'expérience. Ce qu'on vend, c'est la capacité à faire. Et comme c'est un métier de surcompétence et de surqualification, parce qu'effectivement, il est rare qu'on ait une mission qui prenne la totalité de ce qu'on a appris dans sa carrière, quelqu'un de plus âgé aura de toute façon plus de cordes à son arc, mais aussi maîtrisera les adjacences de la mission qui est la sienne et sera beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent. Il comprendra plus vite et il ira plus vite et il n'a plus d'enjeu d'ego. Parce que voilà, il a réussi sa vie professionnelle là où il en est. Et donc, miser sur les seniors, mesdames et messieurs, dans les entreprises, dans les RH, en élection générale, parce que on l'observe par les missions, c'est beaucoup plus productif.
Claire.
Et beaucoup plus rentable.
Benoît, on en a parlé il y a quelques instants, mais vraiment en passant, de l'idée des cycles de carrière. Aujourd'hui, on voit que les gens font des allers-retours, public-privé, salariés, indépendants, entrepreneurs, etc. Bah, d'ailleurs, toi et moi, on en est, avec Louise, on en est tous les trois des exemples, mais en tout cas des illustrations, on va dire, pour rester modeste. Donc, comment tu regardes ce phénomène qui va croissant, et comment est-il aussi regardé par vos clients? Est-ce que cette agilité est bienvenue dans les organisations?
Il y a un mouvement de fond qui est favorable à ça et qui est favorable à l'hybridation des modèles. Je pense qu'on a, un peu avant ça, je pense qu'on a une... Il y a un prisme déformant quand on lit, quand on écoute les médias sur la relation qu'on peut avoir avec le travail et que les Français peuvent avoir avec le travail. Je reste sur la France parce que c'est plus simple et qu'on a un modèle qui est quand même assez particulier. Et je suis assez convaincu que l'attachement des jeunes au travail est nettement supérieur à ce qu'on dit et que leur désengagement il n'est pas si fort que ça. La génération des trentenaires, c'est un peu plus compliqué parce que c'est ce que j'appelle la génération selfie et elle est un tout petit peu plus auto-centrée, pour pas dire égoïste, et c'est compliqué de les mettre dans les collectifs. Mais fondamentalement, ce que je vois de ceux qui arrivent sur le marché du travail là, il y a une vraie envie de faire, il y a une vraie envie de trouver des entreprises, il y a une vraie envie de se mettre au service de marques, de projets, etc. Et quelle que soit, j'allais dire, la nature du job et la nature du contrat. Et on retrouve ça à un autre moment de la vie professionnelle qui est plutôt, on va dire, fin de carrière, ou en tout cas le dernier quart ou le dernier cinquième, chacun fait comme il veut, où là aussi, il y a plus de liberté. Pourquoi ? Parce qu'entre les deux, en fait, ce qui a changé, c'est la fin des parcours linéaires et des parcours statutaires, où une carrière, une entreprise, ça c'est terminé. Et donc, il y a des changements de plus en plus rapides, une aspiration à un changement de plus en plus rapide. Les réseaux sociaux véhiculent des modèles qui peuvent être plus aspirationnels. Et donc, c'est beaucoup plus facile et l'envie est beaucoup plus forte. Et les entreprises se rendent compte en face, progressivement, que faire appel à ces compétences-là, ça a du sens. Pour les entreprises aujourd'hui, l'accès à cette forme hybride d'équipe, en fait, est un vrai atout parce que ça permet d'aller très vite sur des compétences clés qu'elles n'ont pas forcément, immédiatement disponibles d'ailleurs pour la plupart des cas, dont elles ont besoin pour un temps donné, mais pas forcément pour toujours, et que faire appel à des indépendants à ce moment-là, c'est extrêmement souple. Quand on regarde aujourd'hui les organisations de communication au Royaume-Uni, d'après une étude de VMA, il y a 27% des collaborateurs dans les grands groupes, dans les directions de la communication de groupe, qui sont des contractors, des indépendants. Et donc, cette vision hybride, elle permet d'avoir une très forte souplesse, parce que c'est des gens dont on a besoin, au moment où on en a besoin, on a les mêmes. Et en plus, c'est d'autant plus intéressant, c'est que on se rend compte, nous, que la qualité du vivier des indépendants est extrêmement élevée. Et que quand on est indépendant et qu'on arrive à en vivre, c'est parce qu'on est bon dans son métier. Et que donc faire appel à des ressources indépendantes, c'est faire accès aux meilleurs. Alors je ne dis pas ça pour faire la promo du vivier juste, parce que c'est vrai dans un peu tous les métiers, mais c'est une réalité. Et donc, si on a besoin à un moment donné d'accélérer les choses, d'injecter un peu de sang neuf ou un peu d'énergie dans une entreprise ou de pousser les feux sur une chose, faire appel à des compétences externes, facile. Et dans une vie professionnelle, d'avoir eu cette capacité à rebondir d'un CDI à une vie d'indépendant puis salarié, c'est aussi, à mon avis, extrêmement positif, parce que toute mission étant qualifiante, quand on fait des missions, on apprend à chaque fois.
Bien sûr. Bah, on est payé pour apprendre.
On apprend. Et quand on quitte un job pour une raison ou pour une autre et qu'on a déjà été indépendant, dès le lendemain, on peut se retourner et repartir sur des missions. Et donc, on n'est pas dans cette espèce de dépression légitime, hein, mais, et d'attente, on se dit « Oh là là, qu'est-ce que je vais retrouver ?» Quand on a réussi à construire cette double compétence, cette compétence hybride, dans la façon de travailler, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus efficace, et ça correspond à l'attente des entreprises. Donc, les choses sont en train de bouger, et puis, on a, nous, aujourd'hui, les indépendants qui sont recrutés à la fin de leur mission, et puis d'autres qui arrêtent en disant « Je vais repartir en indépendant », etc. Et donc, ce modèle est en train de se développer de façon extrêmement, extrêmement puissante.
Benoît, comme tu le sais, chaque épisode du podcast Superception se termine par une question d'actualité. Il se trouve que nous, on va prolonger la discussion qu'on était en train de mener sur les seniors, qui se trouvent être dans l'actualité avec tous les débats qu'on a connus à la fois sur les retraites et puis aujourd'hui sur le rôle des seniors dans l'emploi. Donc, tu voulais développer, je pense, le thème autour à la fois de la capacité des entreprises à bien utiliser, si j'ose employer ce terme, leurs seniors et pas toujours les mettre sur des voies de garage un certain âge arrivé, et puis aussi recruter des talents seniors pour aussi bénéficier de l'expérience et de l'expertise que nous évoquions. Donc je te laisse développer ta pensée à ce sujet.
Ah, c'est toute l'ambiguïté de post-débat retraite, c'est-à-dire qu'effectivement on est, pour des raisons totalement objectives, amené à travailler plus longtemps. Et en même temps, le corps social et l'organisation du travail ne s'organise pas, ne se met pas en place pour organiser ça avec effectivement une espèce de vision qu'un senior c'est cher et c'est improductif. Alors que la réalité du marché n'est pas là et que faire appel à des gens qui ont de l'expérience, de l'expertise, c'est le meilleur moyen de garantir la bonne transmission des savoirs, la bonne transmission des savoir-faire, l'accompagnement et la montée en compétences des plus jeunes. Parce que c'est ce dont les entreprises ont besoin. Et dans un monde où on a parfois un peu tendance à, quand on écoute les médias, croire qu'on fait l'histoire aujourd'hui mais qu'il ne s'est pas passé beaucoup de choses avant, il faut peut-être se rappeler que ces gens-là ont appris, ces gens-là ont fait, et que beaucoup des entreprises qui sont aujourd'hui en pointe, elles existaient déjà il y a 10, 20, 15 ou 30 ans, et qu'aujourd'hui, un senior qui... parce qu'on est senior à 45 ans tout à l'heure, qui est arrivé en 2000, c'est aussi un digital native. Il a connu les débuts d'Internet, il était là, et c'est peut-être même lui qui l'a fait. Peut-être lui qui l'a inventé. Donc, avec un peu de chance, il sera meilleur dans la vision globale. Et que donc, à la fois garder les gens les plus âgés, entre guillemets, dans l'entreprise, permettre, mais aussi les recruter, parce que ça permet aussi d'intégrer des compétences qui sont assises, qui sont solides, et de l'expérience qui facilite l'accompagnement des plus jeunes et leur montée en puissance. Et avec des gens qui ont un recul peut-être aussi sur leur vie professionnelle qui fait que leurs exigences ne sont pas les mêmes en termes de statut, en termes de posture, et qu'au contraire, ils peuvent jouer le rôle de mentor. Ils savent faire, ils savent faire et ils savent transmettre. Pourquoi s'en priver, mon Dieu ?
Eh bien, écoute, Benoît, c'est sur cet appel au peuple et surtout aux dirigeants que nous allons achever cette discussion, cette conversation à laquelle je te remercie d'avoir participé.
C'était un plaisir, Christophe, comme souvent. Donc, merci beaucoup.
Oui, la seule différence, c'est que là, on a enregistré ce qu'on se disait. Voilà.
Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.